Bonjour!
Bonjour tout le monde.
Bonjour les amis. Comment ça va?
Ah. Merci Charles, merci Albert pour vos resubs. Merci PM pour le raid.
Oui, ça fiche pas. Chelou. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? On était chez Papa Pemf, on vient chez maman, chez Mamassier. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Poète, poète, poète. Je valide Papa Pemf et Mamassier, si tu veux. Petite question, labo des 6 mois à Libé, c'est en papier ou en numérique? C'est numérique. C'est numérique. C'est numérique. D'ailleurs, Libé, ils m'ont dit on en a vendu trop. Attends, je baisse juste un tout petit peu. Libé, ils m'ont dit on en a vendu trop. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est finito. Vous pouvez plus prendre l'abonnement à Libé. Désolé, c'était un abonnement cadeau. J'ai passé l'oral de l'ESJ. Ah ouais, c'est bien passé? Trop, du coup, quoi, ils perdent de l'argent? Non, enfin, disons qu'ils en gagnent pas, quoi. Disons que c'était un abonnement cadeau. Enfin, c'est 10 euros pour 6 mois, c'est tellement pas cher que ça doit être le service commercial de Libé. Ils ont dit, ouais, non, venez, on lève un peu le pied parce que quand même. Moi, j'ai dit, oups, désolé. C'était un truc exceptionnel. Ah oui, c'était un truc exceptionnel, hein. C'était spécial backseat, spécial 50 ans de Libé. Ça montre la force de backseat. Bah ouais, un peu, du coup, moi je suis content. Je fais, ah bah désolé, hein. Désolé, hein. Ma commu, c'est les meilleurs, qu'est-ce que je vous dise. Merci pour l'offre avec Libé, je viens de prendre mon meilleur abonnement. Bah voilà, tant mieux. Point faible trop fort, ouais, c'est ça. Le service commercial a pas été consulté. Si, 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 si. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, je sais même pas comment ils ont fait ça, hein, je m'en fous. Je sais pas, ils avaient dû estimer qu'ils vont en vendre quelques-uns, puis finalement ils en ont vendu beaucoup. Donc tant mieux, moi je suis très content. Tant mieux si vous en avez profité, hein. Merci Benzal, merci, merci beaucoup, merci. Merci Chafaud. Ils ont combien d'abonnés Libé? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on sait pourquoi Jean-Luc Mélenchon a pas voulu venir? Bah, il a pas voulu venir débattre avec François Hollande, il a le droit, hein. C'est pas grave. C'est les vacances. Quoi, vous êtes en vacances? Comment ça, c'est les vacances? Il y a des vacances? Peut-être, hein, je sais pas. Comment t'as trouvé Hollande? Bah écoute, moi j'ai trouvé qu'Hollande c'était un diesel. Il a mis du temps à chauffer. Pourtant, la salle, il faisait chaud dans la salle. Hein. L'amphi Richelieu de la Sorbonne, là, toute la journée, il y a eu des tables rondes, des conférences et tout. C'est un amphi qui est aéré avec un système d'aération qui doit dater du 17e siècle. Du coup, il faisait vachement chaud dans la salle. Et non, non, écoute, Hollande, c'était un diesel. Il est arrivé en mode président de la République, hyper sérieux et tout. Il nous a fait un tunnel sur Libé et machin. Bon, c'est pas grave. Et puis il a chauffé, chauffé, chauffé. Et puis à la fin, c'était Hollande. Moi, j'ai l'impression de retrouver le Hollande 2012 en campagne. Il parlait que à la salle et tout. Il était assez impressionnant, mais c'était cool. Sur la stratégie de la gauche, c'était c'était chouette. Il a enlevé la veste. Ah ouais, non, mais je le comprends, il faisait mille fois trop chaud. Il y a une raison pour laquelle il est devenu président de la République. Ah bah là, clairement, ouais. Non, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un truc de président de la République, mais Hollande, il est rentré sur le plateau. Il est rentré sur le plateau, il a absolument voulu serrer la main à tout le monde pour dire bonjour. C'est vraiment un truc de président, ça. Quand tu rentres dans une pièce, tu dis bonjour à tout le monde. Tout le monde. Peu importe, il y a 300 personnes, tu serres 300 mains. Comme ça, tu dis bonjour aux gens. Et du coup, il arrive sur le plateau et il commence à serrer la main à Malek, commence à serrer la main à Alexandra, à Usul. Et du coup, il passe par derrière le plateau, ce qui n'était pas du tout prévu pour. Et du coup, il se retrouve coincé avec le piano. Parce qu'en fait, il n'y avait juste pas de place, quoi, le plateau. On avait dû faire tenir le piano pour Bilal Hassani. Du coup, il passe entre Léa, Thomas, le plateau, les chaises et tout. Du coup, il se prend les pieds dans les câbles et tout. C'est normal. Et du coup, il a mis une plombe à s'installer. C'est pas grave, c'était marrant. Le blocage pendant le générique. Mais oui. Entre le piano et les chaises pliantes. Mais oui, exactement. Et oui, c'est pour ça que Thomas, il était derrière moi. C'est parce qu'il était en train de laisser passer François Hollande, qui avait mis une plombe à rentrer sur le plateau. C'est pas grave. J'ai pas pu voir le stream hier, mais je regarderai le replay. Ça avait l'air stylé au vu des photos sur Twitter ce matin. C'était très très beau. Je suis très 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 content du travail de Gozulting, de Cardel et de son équipe, l'équipe technique. Parce que eux, ça a été un challenge logistique énorme. Hein. C'est-à-dire que. Merci Natboy pour ton Prime. Merci Vimo, merci Goliab pour vos resubs. En fait, il faut bien comprendre que l'événement de libération pour les 50 ans, c'était toute la journée. Ça commençait, je sais pas, à 10h du mat', je crois. Ouais, c'est ça. 11h, je sais pas. Et la Sorbonne, c'est une université, mais c'est aussi un bâtiment historique. Patrimoine national, monument classé, appelez ça comme vous voulez. Du coup, c'est très très compliqué logistiquement de faire des trucs à la Sorbonne, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. C'est très 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 compliqué. Et du coup, ils n'ont pas pu s'installer la veille, ils ont dû s'installer le jour J. Donc ils ont débarqué, je sais pas, à 7h du mat, un truc comme ça, avec le camion. Et ils ont dû tout installer en seulement 3 heures, parce qu'en fait, la captation, elle durait toute la journée. Ils ont fait les captations des tables rondes de Libé, parce qu'il y avait un YouTube live de Libé toute la journée. Sur leur table ronde. Hop. Et donc du coup, ça a été un vrai challenge, mais je trouve qu'ils ont vachement bien réussi parce que les images étaient absolument splendides. 3 heures pour un plateau comme ça, c'est plus qu'un speedrun. Ah ouais, non, c'est horrible. Hein. 3 heures pour un plateau comme ça, il a fallu tout installer, tirer tous les câbles et tout. C'est juste insane. Donc ils ont vraiment fait un travail incroyable. Ils m'ont dit qu'ils en avaient sué. Hein. Au niveau sécurité, c'était pas trop chiant pour assurer la venue de François Hollande. Non, en vrai, ça allait parce que c'est la Sorbonne. Donc François Hollande, enfin c'est un bâtiment qui est habitué à recevoir des personnalités. Donc c'est pas très compliqué, non. Il y a plein d'entrées possibles, c'est facile de sécuriser une entrée. Une fois qu'il est à l'intérieur, il y a aucun risque. Les entrées sont filtrées, c'est une fac, donc non, c'était plutôt facile. Mais ouais, attends, je vais vous montrer les images. Moi, je trouve que les images, ça rend hyper bien. Ils ont vraiment géré. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Hop. 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 Alors ça, c'est Saloké Samé. Regardez ce plan de caméra. Absolument somptueux. C'est pas beau ça? La caméra slider au fond de la salle là. Vraiment ce plan il est magnifique. La couleur ça rendait trop bien. Le fond de scène c'est un truc qu'on a fait spécialement pour l'émission. Il était réversible. De l'autre côté il y avait la version Libération. Ça c'était la version Backseat que vous avez vu que sur l'émission Backseat. Mais tout le reste de la journée il y avait un fond Libération, Université Libération pour les 50 ans et tout. Avec les logos. Et bon du coup les gens ils avaient que des petits écrans mais voilà. On était assez serrés. Mais non, ils ont cartonné, hein. Ils ont vraiment cartonné, ils avaient foutu des lights un peu partout et tout. Toute la régie, elle est là. Ils sont installés, toute la régie, elle est là. Et franchement, les images, elles sont top, hein. La lumière, elle est splendide. C'est vachement dur d'éclairer, hein, ce genre de lieu, pas du tout fait pour ça. C'est vachement dur de bien l'éclairer, mais la lumière rendait trop trop bien. Et après, je sais pas ce qu'on avait comme. Le fond sur le piano, c'est quand même plutôt pas mal comme image, je trouve. Ce plan-là, il est bien. Non, mais tout marche bien. Franchement, tous les plans marchent bien. Parfois, t'es obligé de faire des plans galères et tout. Et bah là, franchement, ils ont réussi à nous faire des plans vraiment trop cool. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Je suis hyper content de ce qu'ils ont réussi à faire. Et le plan sur l'invité, ouais, c'est ça, il y avait le plan sur François Hollande. Bon, le seul truc, c'est qu'il y avait une chaise pliée ici. Mais bon. Franchement, si c'est le seul défaut. Même la prise de sonore avec la réverb naturelle. À la réverb, c'était pas facile, hein.
Et des jeunes, parce qu'ils veulent
Ça
changer
s'entend, hein.
leur vie et la vie des autres dans les quartiers.
Ouais. Usul.
Un des marqueurs de la gauche historiquement, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour rebondir sur cette question du.
Franchement, la reverb, moi je trouve pas ça trop gênant. Je trouve pas ça trop gênant. On sent bien qu'on est dans un amphi en fait, mais ça choque pas à l'oreille. Il y a un petit côté hall de gare, mais c'est pas trop trop gênant, franchement, je trouve. Ça passe. Ah ouais, non, ça passe carrément, mais voire même ça accompagne bien le plateau.
Donc, renchérir le coût du travail. Vous avez choisi une politique plutôt de l'offre, donc qui.
Cette gauche qui préfère le compromis à l'affrontement.
Thomas, à la fin, qui avait le coude sur le piano.
Qui,
Très bien. Thomas, il a tout compris à l'émission. Hein.
Au combat. Le problème qu'a eu François Hollande, mais qu'ont eu tous ceux qui prenaient la social-démocratie en France, c'est que c'était une social-démocratie sans bras, puisqu'il n'y a que 8% de syndiqués et que les syndicats n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et c'est. Alors, il va sûrement nous dire autrement.
Non, il met oui. Voilà, il dit oui,
d'accord, très bien. Et donc, voilà, la social-démocratie.
Non, c'est vrai.
La social-démocratie, on l'a souvent assimilée à un centre-gauche.
Ouais.
Parce que.
Et puis, même, alors, attendant, parce que, attends, avant ça, quand même, excusez-moi, hein. Mais le morceau de piano de Bilal Hassani, ça aussi, hein, en termes de sonorisation et d'image. Est-ce que c'est pas un peu magnifique le son qu'ils ont réussi à capter, vu le niveau de galère que c'était? Les plans de caméra sont splendides, le son est absolument merveilleux. Il y avait Liam qui tenait la caméra, qui faisait les images entre le visage et les mains. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce plan-là. Non mais attendez, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, c'est trop trop beau quoi. La musique était magnifique, Bilal était incroyable. Pas mal, non, c'est français. Ah non, franchement, ils ont trop cartonné. Hein. Bravo Gozu, bravo Cardel, bravo Liam. Vous avez été incroyable. C'était vraiment, 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 vraiment super. Tu dois ressentir toi aussi une grande fierté. Ah oui, moi je suis très très fier et je suis très content et c'est un partenariat qui s'est bien passé. En plus, alors truc rigolo, la salle était remplie de gens qui venaient pour Baxit. Moi je suis très content. Hein. À la base, avec Libé, on s'était dit il y aura 400 places de gens qui étaient là toute la journée pour Libération. Et on va garder 80 places, je crois, pour Backseat. En fait, au fur et à mesure de la journée, il y a plein de gens qui avaient pris des places pour Libé, mais qui en fait venaient pour Backseat. Et du coup, la salle, elle était remplie du public de Backseat, quoi. C'était trop chaud. On a rajouté 60 places. En fait, on sentait qu'au fur et à mesure de la journée, on allait avoir assez de place dans l'amphi, contrairement à ce qu'on pensait. En fait, on avait peur que ce soit blindé, que ce soit l'horreur et tout. Et en fait, non, ça avait l'air de tenir la jauge. Donc, on s'est dit, bah tiens, on peut rajouter des places, c'est cool. Du coup, on en a rajouté 60. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression que le public était blindé du public de Backseat, quoi. C'est dommage qu'il y avait encore moyen de caler des personnes en haut. Il y avait peut-être encore moyen de caler des personnes. Alors, le problème, c'est que si tu parles des places qui sont ici, on voit absolument rien. C'est quand même un chouïa dommage. Et au fond de l'amphi, il y avait peut-être des plages, je me rends pas compte. Je sais pas. Après, c'est les jauges de sécurité de la Sorbonne. Hein. Je sais pas comment ils fonctionnent. Fallait y mettre des danseurs. Je t'aurais bien vu danser, Pemf. Globalement, c'est quoi le retour de l'IB sur l'event? Écoute, pour l'instant, on n'a pas encore débriefé avec l'IB. On s'est juste parlé rapidement hier soir. On s'est remercié, on s'est félicité. Enfin, c'était très cool. La directrice générale m'a remercié, le rédac chef et tout. Ils m'ont dit merci, c'était super. Faudrait qu'on discute à l'occasion et tout. Donc, je pense qu'ils sont très contents, l'IB. Hein. Donc tant mieux. Mais j'ai pas trop eu l'occasion. Je leur ai dit qu'il fallait qu'on se cale un point à l'occasion pour débriefer tout ça. Faut qu'on fasse ça la semaine prochaine à tête reposée. Mais moi de mon côté, je suis très content. Non, je sais pas, vous êtes content vous? Si vous remuez la queue, c'est que c'est bon. Hein. Si vous êtes content, moi je suis content. Non, mais moi de mon côté, j'étais content. En tout cas, hier soir sur le moment, ça allait très bien, c'était très cool. Est-ce que l'émission a coûté beaucoup plus cher qu'une émission classique? Oui, ça a coûté. Ça a coûté près de deux fois une émission classique. On a partagé avec Libé. Est-ce que tu penses que Backseat a beaucoup gagné en visibilité? Non, je pense pas. Non, je pense pas que Backseat a gagné en visibilité à l'occasion de ce... Sauf si des personnes ont découvert Backseat grâce à l'événement de Libération et tout, c'est possible. Mais j'ai pas... Est-ce que Hollande, il a mis des sous sur le kiss-kiss? Non, c'est vrai, je lui ai pas demandé. François Hollande, est-ce que vous pouvez donner un peu à Backseat, s'il vous plaît? Parce que là, c'est... On a besoin de votre aide. Enfin, on a besoin de l'aide de tout le monde, hein. Est-ce que tu avais un boost dans tes follow depuis le début de la promo de l'event avec Libé? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. On est à combien? On est à 230 000 followers sur Twitch. Ça augmente sensiblement de la même manière. Mais c'est pas grave, moi c'était pas particulièrement... Enfin, moi le partenariat avec Libé, je le faisais pas particulièrement pour dans l'idée d'avoir une exposition médiatique. Hein. C'est pas... De toute façon, la presse papier pour une chaîne de streaming, c'est vraiment pas l'endroit où tu vas trouver des marges de progression. Donc c'est pas grave, c'est pas pour ça que je le faisais. C'est moi, c'était éditorialement que ça m'intéressait. C'est les 50 ans du quotidien Libération, quotidien historique de la gauche française. Bah, éditorialement, je me suis dit, mais attends, c'est trop cool, on va pouvoir faire une belle émission, plutôt cool, avec des journalistes de Libé, on va pouvoir parler de Libé, pouvoir faire une belle émission sur les médias, on va pouvoir faire un plateau un peu différent. Après. Après, on a rajouté l'idée d'être avec Bilal. Bilal a accepté. On s'est dit, putain, c'est trop, trop bien. Du coup, on a fait un interlude musical. C'est quand même la première fois dans Backseat hein, qu'on vous propose un interlude musical. J'espère que ça vous a plu. Il y en avait même deux, des interludes musicales, parce qu'on avait aussi Toxic Avenger. Toxic Avenger qui a interprété la chanson Bien Cordialement. Moi, je m'ambiançais un peu sur le plateau. Hollande, pas beaucoup. Hollande, il n'était pas dans le headbanging. C'était bien chouette d'avoir de la musique en direct pendant l'émission. Non, c'est vrai, ça vous a plu la musique pendant l'émission? Ça, c'est un truc qu'on pourra refaire à l'occasion. Hein. Alors, ça, le problème, c'est que ça peut être un peu cher. C'est les artistes, il faut payer un cachet et tout. Mais en vrai, why not hein. Moi, pourquoi pas hein, avoir des musiciens qui viennent sur Backseat interpréter un morceau et après on discute. Le format est plutôt cool. L'interview de Hollande était beaucoup trop courte en vrai. L'interview de Hollande, je crois que c'était la plus longue interview d'un invité politique de l'histoire de Backseat. Donc je suis désolé si elle t'a paru trop courte, mais je pense qu'on a atteint un record, donc... Et pourquoi pas de quiz à la con? Bah justement, pas de quiz à la con parce qu'on voulait faire une longue interview. Merci Gerbet pour ton sub. Non, mais j'aime beaucoup le quiz à la con, c'est sympa pour finir une émission, etc. Mais là, on s'est dit, attends, on est à la Sorbonne, c'est les 50 ans, c'est quand même trop dommage de finir une émission à la Sorbonne sur un quiz à la con. Vas-y, viens, on fait sauter le quiz à la con sur ce coup-ci, c'est pas grave. Du coup, ça nous a permis de rallonger l'émission, de faire un long moment avec Bilal Hassani et Salomé Saké. Puis on a enchaîné avec les journalistes de Libé. Puis on a interviewé Hollande pendant la durée qu'on voulait, donc ça a été sans pause. Non, il n'y a pas eu de pause non plus dans l'émission. Non, on a fait sauter la pause. Alors en fait, pour être très honnête, le morceau de Toxic Avenger, c'était, j'avais prévenu les chroniqueurs, je leur avais dit c'est l'occasion si vous voulez aller pisser. C'est peut-être le seul moment que vous aurez dans l'émission où vous pourrez vous absenter du plateau pour aller pisser et revenir. Mais les gens dans la salle sont pas partis, hein. Ils ont écouté le morceau, ils ont headbangé et tout. Et c'était comme ça. Pourquoi pas d'actualité de la semaine? Bah pareil, parce que encore une fois, c'était une émission spéciale sur l'événement des 50 ans de Libé. Donc au lieu de faire l'actu de la semaine comme d'habitude, c'était une émission exceptionnelle. Hein. Si vous n'avez pas retrouvé les trucs habituels dans une émission exceptionnelle, c'est normal. C'est parce que c'est une émission exceptionnelle. C'est une émission événement. Donc à l'occasion des 50 ans de Libé, on a plutôt préféré vouloir, enfin on a voulu parler des 50 ans de Libé, de journalisme, du socle de valeur de Libé, de ce que ça veut dire et tout. Alors j'espère que vous avez bien aimé Thomas et Alexandra, d'ailleurs je les remercie encore une fois d'être venus sur le plateau de Backseat. Thomas et Alexandra, ils ont été top, ils vous ont montré sur le plateau, en direct vous avez vu qu'au sein même de Libé il y a des débats. Ils passent leur temps à s'engueuler les gens de Libé, mais ça c'est 50 ans d'histoire hein. 50 ans de discussion en rédac pour savoir c'est quoi la gauche, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi le journalisme. Ça, c'est l'histoire de Libé. Je suis très content que vous l'ayez vu, parce que pour le coup, en direct, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, bah, vous voyez, ouais. On vous a chopé deux journalistes de Libé, ils ont réussi à pas être d'accord. Si ça, c'est pas Libé vibe. Ce qui est drôle, c'est que ça fonctionne, ça laisse de l'espoir à la NUPES. Ah, bah ça, c'est la gauche. Hein. Je suis allé acheter Libé ce matin. Ah bah très bien. Avoir Thomas Legrand qui a fait un mini-isme en live, c'était ouf. Ah oui, j'ai piégé Thomas Legrand. Attends, c'était trop marrant. J'avais Thomas Legrand sur mon plateau. J'adore Thomas Legrand. Il y avait François Hollande sur mon plateau. Je me suis dit tiens, et si je demandais à Thomas Legrand devant François Hollande, c'est quoi le hollandisme Thomas? C'est quoi le hollandisme Thomas?
De la semaine.
Et du coup il a répondu, attends.
Indiqué de la société, il faut découpler la radicalité de l'extrême.
Même si ce qu'a dit Thomas Legrand est tout à fait juste, c'est pas simplement la méthode du compromis, c'est
C'était mais les mais deux peut-être solutions. Pas tous, peut-être pas de la même manière.
Non, mais soit compensé, c'est négociable. La sécurité.
Attends, j'essaie.
Mais ça, c'est pas GT qui va être. Non. Donc, rentabilité sociale.
Ça a été.
J'essaie de trouver la définition du hollandisme.
Au contraire.
C'était à quel moment ?
Il a disparu sans. Les radicaux, tout ça. On peut renverser un gouvernement que quand on a une. En Allemagne, c'est le cas, que quand on a une alternative. C'est. Donc, il va falloir. Des salariés.
Merde, j'ai pas retrouvé. J'arrive pas à retrouver. Y aura-t-il une de Libé sur ce Brexit ? Non. Bon, non. Le chat était énervé quand Hollande est arrivé. Ah, mais c'est normal, ça. C'est fait exprès. C'est prévu. Ça fait partie de la strat. Presque rien à voir, mais les achats de tickets pour les Brexit fin juin, c'est ouvert ou pas encore ? Ben je sais pas, t'as qu'à voir, point d'exclamation place. Hop, tu cliques sur le With Event et tu regardes les dates. Ah non, il n'y a que le 8 juin. 15, 22, 29. Ben il faut qu'on mette en vente les dates du 15, au moins du 15, ouais. 15 et 22 serait bien. Libé a fait un article sur le passage de d'Hollande sur son journal, dans son journal C'est Beau. Ah ouais, il y a eu un article de Libé sur... J'ai pas vu. Maintenant que je suis abonné grâce à l'offre exceptionnelle. J'adore la photo. Ça c'est Libé. Libé est l'art de la photo. Avec la caméra de quotidien derrière. Ça, c'est la caméra de quotidien, hein, pour ceux qui veulent savoir. Quotidien qui se baladait toute la journée partout et qui essayait de choper des petites phrases des gens de gauche. Bon, bah, on va lire alors. François Hollande à l'université Libé, c'est avec des gens de droite qu'on fait des électeurs de gauche. En clôture de l'université Libé, l'ex-président, visé par la NUPES lors des débats, a mis en garde la gauche sur l'absence de débouchés avec des propositions trop radicales. Toute la journée, à l'occasion de l'université de Libération, les gauches se sont croisées à la Sorbonne. Comme souvent, elles se sont confrontées et embrassées, parfois les deux en même temps. Réunis sur la scène de l'amphithéâtre Richelieu, les chefs insoumis communistes écolos, mais aussi socialistes, sont tombés d'accord sur plusieurs points, dont celui-ci. François Hollande a déçu. Quand l'ancien président de la République arrive dans la soirée pour participer à l'émission Backseat sur Twitch, tout ce petit monde est parti. Ce qui compte, c'est de convaincre. Il faut être majoritaire. À quoi ça sert ? À quoi sert-il d'être radical si on ne gouverne pas ? Balaye-t-il en débarquant. Les reproches glissent sur le costume du socialiste venu débattre des générations irréconciliables, clin d'œil à la formule de son ancien Premier ministre Manuel Valls, qui parlait de gauches irréconciliables. Vieux boomer contre jeunes ? Je n'ai jamais pensé que les gauches étaient irréconciliables. Je ne pense pas davantage que les générations le soient. Le rôle de la politique, c'est de réunir pour aller vers un destin commun, répond Hollande. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait pour la jeunesse une fatalité à ne jamais se faire entendre car les plus âgés sont trois fois plus nombreux. Et là, pour le coup, François Hollande rejoint Salomé Sacquet. Il a la même analyse que Salomé Sacquet en disant que pour des effets de démographie, on ne peut pas se permettre d'avoir un clivage de génération parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas attendre que les boomers crèvent pour que les jeunes deviennent majoritaires. On n'a pas le temps, on est obligé de s'entendre avec les boomers. Donc Hollande-Sacquet, même combat. Sur ce point-là. L'ancien chef de l'État admet toutefois une prise de conscience trop tardive de la génération des boomers sur l'impératif écologique. Peut-on pour autant tolérer les jets de peinture sur les œuvres ou les autoroutes bloquées ? Je ne condamne pas s'il y a le sentiment que si on ne le fait pas, on ne respectera pas les objectifs en matière de climat, répond Hollande, à condition de se placer dans le champ démocratique. Le socialiste remonte le temps. Il raconte l'occupation du Larzac dans les années 70, un mouvement peut-être minoritaire, mais il faut qu'à la fin, un changement s'opère par la voie démocratique. C'est intéressant de la part de Hollande de faire un point avec le Larzac, parce que le Larzac, en fait, c'était au même moment que la naissance de Libération. C'était les années 70, c'était les années hippies, appelez ça comme vous voulez, mais c'était un moment où une gauche révolutionnaire aussi... Bah tiens, d'ailleurs, Usul a sorti un portrait sur Blast d'Alain Krivine. Ça remonte aussi dans ces années-là, quoi. Les années 70, le Larzac, c'était un très très bon exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui une ZAD, Notre-Dame-des-Landes, tout ça et tout. Mais le Larzac, c'est exactement pareil. Donc à la fin, il y a eu l'annulation du projet d'installation dans le Larzac qui s'est opéré par la voie démocratique. Du climat aux attentats de 2015, peut-on, 50 ans après mai 68, jeter des pavés sans être fiché S ? Hollande refait le film, ça c'est la question de Usul. Hollande refait le film des événements qui ont marqué la France pendant son quinquennat, quand les policiers étaient applaudis dans les manifestations. Du lien aujourd'hui entre les forces de l'ordre et une partie de la population, il juge que, je cite, « les rapports se sont dégradés, mais je ne veux pas qu'on remette en cause la police en tant que telle. Aujourd'hui, il y a une défiance plus grande, mais il y a toujours eu des affrontements. » Il était très hollandais sur cette réponse-là, effectivement. Le débat repart sur la radicalité. Mot qui a jalonné les débats tout au long de la journée. Laurent Berger, le patron de la CFDT, sur une ligne réformiste, appelle lui-même à en mettre davantage de radicalité. François Hollande n'en démord pas. Il convoque, en opposition, le mot de crédibilité qu'il associe à la social-démocratie. Il ne lui a pas échappé que le député insoumis François Ruffin, très critique du bilan de l'ancien président, assumait en partie cette histoire politique. « Bienvenue au club », lui lance Hollande en faisant rire la salle. Il insiste sur la nécessité de réunir plus de 50% des suffrages dans une présidentielle pour ramener la gauche au pouvoir et appelle à plus de modération. C'est avec des gens de droite qu'on fait des électeurs de gauche, il faut aller les chercher. Pour l'instant, ce n'est pas nous qui allons les chercher. Fin de l'article. Bah, c'est un bon article, ça, Libé. Ça donne envie de s'abonner à ce bon journal. Non, en vrai, il est chouette, l'article. Il synthétise assez bien, effectivement, les échanges qu'on a eus avec François Hollande. Et à la fin, effectivement, donc c'était vraiment la fin de l'émission où François Hollande, il est en mode à haranguer le public.
Non, je ne suis pas favorable des listes communes. Je suis favorable à ce qu'il y ait des compétitions entre les familles de la gauche pour le rassemblement ensuite. Ça a toujours fonctionné comme ça.
Au second tour, alors.
D'abord, on se fout sur la gueule et ensuite, on redevient amis.
Vous pensez que François Mitterrand a été élu au premier tour avec une candidature commune de la gauche, non ?
Non, mais il a été élu sur un programme commun.
Vous êtes d'accord, avec Jean-Luc Mélenchon ?
Non, mais la situation n'est pas la même.
Le programme commun avait été déchiré, la gauche était divisée, il a gagné.
Et l'extrême droite n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui aussi. Il y a peut-être ça qui rend la chose urgente, c'est palpable chez tous les dirigeants de gauche aujourd'hui.
Moi-même, j'ai été élu en 2012, il y avait une extrême droite qui était déjà forte, j'ai été candidat, il y avait Mélenchon qui était candidat, il y avait même Eva Joly qui était candidat, et ça n'a pas empêché la victoire. Au contraire, ça l'a permise, la victoire, parce que ça permet au deuxième tour d'avoir la dynamique nécessaire.
C'est la réserve de voix.
Vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule liste au Front Populaire ? Mais non, il y avait la SFIO, il y avait le Parti Communiste, il y avait les radicaux, et c'est ce qui a permis la victoire.
Vous voulez un truc rigolo ? Sur ce point-là, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon sont d'accord. Il n'y a pas besoin d'un candidat unique de la gauche pour gagner une élection présidentielle à gauche. Si vous regardez l'histoire, les présidents de la République de gauche, ou les moments où la gauche a été en tête aux élections, a remporté les élections, il y avait d'autres listes à gauche. Hollande a battu Mélenchon en 2012. Et il a battu Eva Joly. Et il a quand même gagné la présidentielle. Et ça, pour le coup, Mélenchon, il est d'accord avec ça. Il l'a déjà dit. Il l'avait déjà dit en 2017, il l'a redit en 2022. C'est pas grave, ils ont le droit de se présenter s'ils veulent. Pour autant, je suis assez d'accord avec Usul pour dire que la menace de l'extrême droite au pouvoir rend la chose peut-être un peu différente et que peut-être qu'il faut la regarder différemment. Ça, je suis assez d'accord avec Usul. Mais, ceci étant, l'analyse, je pointe juste que l'analyse entre Hollande et Mélenchon est assez partagée.
Donc il y a toujours eu la nécessité de partir différemment parce qu'on ne pense pas forcément tous la même chose. On peut avoir un programme commun à la fin, c'est souhaitable. Mais il faut d'abord reconstituer des familles et aller drainer le maximum d'électeurs pour avoir une majorité à la fin. Et le problème du Rassemblement national, je ne sais pas si elle sera au second tour.
Mais il s'en crée. Renaissance, c'est un parti qui a été créé, personne n'y va.
Un peu d'espérance le moment venu. Non, ça ne se passera pas. Donc il faut travailler. Donc si vous avez peut-être du temps à perdre, venez. Alors je ne sais pas où vous allez, parce que pour l'instant, il va falloir vous proposer une organisation, parce qu'il faut une organisation. Il n'y a pas de politique sans organisation.
Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à lire dans les pages ID de Libération.
Libé, voilà. Lisez Libé, abonnez-vous.
Mois. Mais oui, abonnez-vous. D'ailleurs, profitez de l'abonnement.
Et ça, pour le coup, c'est vrai que François Hollande, là, il a un peu mouché le plateau à ce moment-là, quand il disait, en fait, il ne suffit pas de réfléchir arithmétiquement à des alliances électorales, etc. Il faut travailler. La gauche a du boulot, que ce soit la NUPES ou une autre gauche, la gauche à laquelle lui, il appelle de ses voeux, qui n'est pas NUPES. Il y a du boulot, il faut faire des propositions, il faut être au rendez-vous des aspirations des Français, etc. Et ça demande de travailler, et pas simplement de s'opposer à Macron. C'est plus compliqué que ça. Il dit comme Usul qu'il faut des corps intermédiaires. Ah bah oui, non, mais pour le coup, l'analyse de François Hollande de la social-démocratie est assez juste. L'analyse de Thomas Legrand aussi de la social-démocratie est assez juste. C'est-à-dire que la social-démocratie, ça suppose d'avoir des acteurs capables de négocier. Donc ça suppose d'avoir des syndicats forts. Et quand je dis forts, ça veut dire très forts. Capables d'imposer un rapport de force au patron. Dans les entreprises, dans les branches, au niveau interprofessionnel, au niveau national, etc. Il était à fond syndicat. Mais c'est ça la social-démocratie. Et Usul est d'accord avec ça. Hein. Usul a toujours été d'accord avec ça. C'est pour ça qu'Usul, il vous dit syndiquez-vous. C'est qu'il y a besoin de syndicats forts. Alors pour le coup, c'était marrant quand Usul il a dit ouais, mais vous préférez la CFDT à la CGT. Hollande il lui a dit mais pas du tout. La CGT il signe des accords. Hein. Peut-être que vous avez une image de la CGT qui fait grève toutes les 5 minutes et qui fait des manifs et tout. Mais en fait, la CGT il signe des accords. Hein. Il négocie la CGT hein, tout le temps. Il y a plein d'accords d'entreprise qui ont été signés par la CGT. Peut-être pas au niveau interprofessionnel, encore que, hein. Encore que, avant Martinez, y a eu des accords interprofessionnels qui ont été signés par la CGT, je crois. Je ne me souviens plus. La CGT, elle réclame tout. Oui, mais ça, c'est normal. Non, mais on s'en fout, c'est pas sur les revendications. C'est sur les accords qui sont trouvés. C'est le chat qui a fait du bruit. Non, non, c'est moi. Le petit chat. Mélenchon devait être là. Non, 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 Mélenchon devait pas être là. On a proposé à Jean-Luc Mélenchon de venir avoir un échange ou un débat avec François Hollande sur la gauche à l'occasion des 50 ans de libération à la Sorbonne. On a fait la proposition à Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas souhaité y participer comme c'est son droit le plus strict. Il n'y a aucun problème avec ça. Je viens de me faire la réflexion, mais il dit qu'il ne faut pas forcément un candidat unique pour remporter l'élection présidentielle, mais pour les européennes, les sympathisants de gauche ne demandent pas une alliance, un front contre l'extrême droite. Ma question est que cette méthode qui fait gagner Hollande... En fait, Hollande fait la différence, et il n'a pas tort, entre les modes d'élection des européennes et de la présidentielle. On peut avoir un débat sur la nécessité d'avoir une liste unique aux européennes. C'est un débat que vous avez vu sur le plateau de Baxit, puisqu'on en a parlé avec les Insoumis, avec Clémence Guettet, avec Manon Aubry. On en a parlé avec les Écolos, avec Marine Tondelier. Donc on peut avoir un débat, etc. La présidentielle, c'est pas tout à fait pareil. La présidentielle, ça reste un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Donc, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, c'est pas une nécessité absolue. En tout cas, les élections, ce que veut dire François Hollande, et je pense que je suis assez d'accord avec lui sur ce point-là, c'est que remporter une élection, ça ne repose pas que sur des dynamiques arithmétiques. C'est plus compliqué que ça. Au demeurant, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon est aussi, lui aussi, d'accord avec ça. Ça se remporte sur un programme, sur des idées qui réunissent des électeurs. La vraie question, c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces électeurs. Et là aussi, pour le coup, il y a un débat à gauche que je trouve très intéressant. J'aurais bien voulu que Jean-Luc Mélenchon et François Hollande aient un échange sur ce point-là. C'est où est-ce qu'on va chercher les électeurs qui nous manquent. Jean-Luc Mélenchon essaye au maximum d'aller les chercher dans les abstentionnistes. Et François Hollande, lui, il dit qu'il faut aller les chercher chez les modérés. D'où la phrase à la fin où il dit il faut aller chercher les électeurs de droite pour les ramener vers la gauche et essayer de les convaincre. Et on réussira pas à les convaincre avec de la radicalité. On réussira à les convaincre avec de la crédibilité. C'est deux manières de voir les choses différentes. Ruffin va aller chercher à l'extrême droite. Ruffin va aller chercher à l'extrême droite, effectivement, dans les bassins miniers, dans les anciens bassins miniers. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Lomi, merci pour le sub offert. Pour ma part, d'accord avec Hollande. Mais c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez, si la gauche veut remporter une élection présidentielle, est-ce qu'il faut qu'elle aille chercher des électeurs qui ont voté Macron en 2017, voire en 2022, pour essayer de les ramener vers la gauche ? Ou est-ce qu'il faut que, ou est-ce qu'il faut qu'elle s'en foute et qu'elle se dise qu'elle gagnera arithmétiquement en réussissant à ramener vers les urnes des abstentionnistes ? Je ne sais pas. Why not both? Oui, non, tu peux faire les deux. Mais du coup, c'est vrai que tu te positionnes différemment, quoi. Regarde, la stratégie du populisme de gauche de Chantal Mouffe, appliquée par Jean-Luc Mélenchon, vise précisément à recréer un « eux » versus « nous » pour aller chercher le « nous », notamment chez les abstentionnistes. La stratégie de François Hollande et de la social-démocratie, c'est d'aller chercher des électeurs modérés, sensibles, à des idées de gauche sur la justice sociale, l'écologie, l'égalité, etc. et de les ramener à gauche en leur montrant que s'ils votent pour toi, ils auront un pouvoir crédible, capable de gouverner dans les compromis, dans la négociation, la discussion, etc. C'est pas tout à fait la même stratégie, quoi. Le problème de la NUPES, c'est qu'elle est devenue une marque politique toxique chez pas mal de gens plus proches des modérés. Je sais pas si c'est la marque NUPES ou si c'est la marque LFI, tu vois. C'est vrai que, mais ça on l'avait déjà analysé plein de fois, c'est vrai que la marque, l'image, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir pour beaucoup d'électeurs modérés. Et de la France insoumise, et de sa radicalité. Enfin, tu vois, regarde, c'est typiquement ce dont on parlait sur la réforme des retraites et la stratégie d'obstruction et de faire du bruit à l'Assemblée. Est-ce que pour autant la NUPES est une marque qui fait peur ? C'est pour ça que tu vois, regarde, quand tu vois les macronistes, le gouvernement, la majorité et probablement aussi le camp Bernard Cazeneuve, François Hollande, etc., qui renvoient la NUPES à Jean-Luc Mélenchon, c'est une manière effectivement pour eux de dire aux Français « Ah ah ah, vous voyez, la NUPES, ce n'est rien d'autre qu'un repacking de Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête de la NUPES. Regardez Olivier Faure, il a soumis le Parti Socialiste à Jean-Luc Mélenchon et à sa radicalité, machin. C'est tout pourri, etc. » Peut-être qu'ils font ça parce qu'ils ont peur, justement, que les électeurs de gauche fassent la différence. Et se disent « Bah non, la NUPES, c'est pas Jean-Luc. » D'ailleurs, regardez Jean-Luc, il n'arrive pas à se faire obéir au sein de la NUPES. CF, l'affaire Quatennens, etc. CF, la stratégie d'obstruction sur la réforme des retraites. Pour le coup, la NUPES, c'est LFI. Bah non. Bah non. Enfin, bah non. Non, c'est pas... permets-moi d'en discuter. Voilà. Permets-moi d'en discuter. Non, la NUPES, c'est pas LFI. Si la NUPES était LFI, il y aurait une liste commune de la NUPES aux élections législatives, puisque c'est ce que veut LFI, aux élections européennes, puisque c'est ce que veut LFI. Tu m'accorderas qu'en ce moment, la NUPES n'est pas totalement mélenchonâtre, mélenchonolâtre. Ça débat, ça s'engueule. L'intergroupe à l'Assemblée, ils sont d'accord sur des positions communes. Alors tu me diras, depuis 6 mois, c'est facile de s'opposer à la réforme des retraites, c'est pas compliqué. Mais sur d'autres textes, non. La NUPES, c'est une gauche plurielle. Beaucoup de gens disent qu'ils confondent NUPES et LFI. Et je peux le comprendre. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Hein. Les gens n'ont pas raison ou n'ont pas tort. D'ailleurs, on parle plus du PS, d'Europe Écologie Les Verts et du PCF depuis la NUPES. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le programme est quand même basé sur l'avenir en commun. Bah oui, mais l'avenir en commun, c'est le programme qui a récolté le plus de votes à gauche à l'élection présidentielle, donc c'est normal que ce soit la base de discussion. Mais le programme commun de la NUPES, qui a été présenté aux élections législatives de 2022, c'est un programme négocié. Regarde, ils se sont engueulés sur la notion de désobéissance à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait ? On désobéit un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout ? Bon, bah c'est négocié, hein. Merci Medmed pour ton sub. oublié passionnément. Oui, c'est vrai. Au début, la NUPES s'était voté Mélenchon Premier ministre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que si la NUPES avait été majoritaire à l'élection législative, aux élections législatives, elle aurait mis Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et il aurait appliqué le programme commun de la NUPES en nommant des ministres issus de tous les partis de la NUPES. Et qu'est-ce qu'on aurait eu ? Eh ben, on aurait eu la gauche plurielle de Jospin, ça aurait été le bordel tous les jours. Le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon aurait présenté une loi de sortie du nucléaire. Ce à quoi les communistes et les socialistes du gouvernement auraient dit ouais. Ce à quoi les députés de la majorité NUPES auraient dit pas sûr qu'on vote tous ta loi. Du coup, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il aurait eu une majorité relative sur la sortie du nucléaire. Du coup, il aurait probablement utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sa loi de sortie du nucléaire. Du coup, une motion de censure aurait été déposée par le groupe d'opposition Liot. Et on aurait fait des streams pour s'interroger sur va-t-il y avoir des députés de la majorité qui vont voter la motion de censure contre le gouvernement de la NUPES. Et on aurait fait d'excellentes émissions Backseat. Eh, ça aurait été marrant, hein. Hélas, je ne vous ai donné l'exemple que du nucléaire. J'aurais pu parler d'Europe, de laïcité, de... voilà. Alors, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, effectivement, vous aurez remarqué que la NUPES n'a pas remporté les élections législatives, que c'est Renaissance qui a remporté les élections législatives, mais qui n'a pas obtenu une majorité absolue. Et c'est pour ça que vous aimez cette chaîne depuis juin dernier, parce que qu'est-ce qu'on s'amuse avec une majorité relative. Abonnez-vous. Moi, je dis abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous comprends pas. Hein. C'est donc ça, le multivers. Oui, c'est ça. Question concernant Libé et les journaux en général. Les journaux ne sont pas soumis à l'égalité du temps de parole des candidats politiques comme à la TV. Ben non, par définition. Puisque dans un texte écrit, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de chronomètre. Tu ne peux pas chronométrer un temps. Donc il n'y a pas de temps de parole dans les journaux et dans la presse écrite. Ça n'a de sens qu'à la radio et à la télévision. Est-ce que François Hollande soutient la CACORP ? Écoute, j'en suis désolé, je ne lui ai pas posé cette question-là. Ça doit faire partie des frustrations que vous avez sur cet échange avec François Hollande. Trop cool d'avoir eu ce backseat dans cet amphithéâtre. Ouais, c'était trop bien. Backseat en public avec 400 personnes dans un amphithéâtre de la Sorbonne, c'était quand même très très cool. Je suis très heureux qu'on a réussi à le faire, moi ça me fait vraiment plaisir. Je suis content que vous l'ayez apprécié. Merci pour vos messages, d'ailleurs j'ai reçu énormément de messages de gens contents qui disent que c'était trop cool, qu'ils ont aimé l'émission et tout. Les gens sur place étaient adorables, on a passé une trop bonne journée. Les retours sont très cool, hein. Bah, les gens qui détestent Backseat n'ont pas été contents parce que c'est normal. Les gens qui adorent Backseat, il y en a plein qui sont contents parce que pareil, c'est normal. Merci pour vos retours. À quand Backseat au Stade de France ? Ce serait chiant Backseat au Stade de France, non ? Tu vois rien. Il y a des gens qui aiment pas Backseat ? Ah oui, il y en a. Mais c'est fait exprès. Ça fait partie de la stratégie de Backseat. On appelle ça la stratégie de l'antagonisme. Faire monter l'opposition pour monter soi-même. C'est un classique de la communication numérique. Est-ce que c'est une proposition de Libération ? Non, c'était une discussion avec Libération qu'on a eue depuis plusieurs semaines/mois. pour monter ce projet. Baxit en province, bah c'est toujours pareil. Le problème de Baxit en province, c'est que ça coûterait 2 à 3 fois plus cher de faire une émission Baxit en province en dehors de Paris. Ce serait plus difficile d'avoir des invités politiques. Et les seules personnes qui seraient contentes, ce seraient les personnes qui habitent dans la ville où on irait. Et pour les autres, ça ne changerait rien parce qu'ils seraient chez eux à la télé. Enfin, pas à la télé, pardon. Oh là. Sur Twitch. Donc c'est beaucoup d'argent dépensé pour seulement une quarantaine de personnes qui sont contentes. Je suis nouveau, c'est quoi Baxit? Regarde, je vais te montrer un extrait.
Spécial Baxit qui ne dispo que jusqu'à demain, jeudi midi. Après, il n'y en aura plus. 10 balles sur le plateau de Baxit. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette...
Voilà, fin de l'extrait. Normalement, ça t'a donné envie de t'abonner à la chaîne. Là, ce que tu viens de voir, normalement, tu as ressenti des libérations d'endorphines dans ton cerveau qui déclenchent le comportement d'achat. Là, tu es physiquement en train de sortir la carte bleue de ton portefeuille pour dire oh, « il faut que je m'abonne à cette chaîne Twitch ». Bion. Merci Rim333 pour ton Prime, merci. Ne lutte pas contre la tentation. Baxit en lettres rouges à l'Olympia. Ouais, enfin bon, faut du pognon pour ça les enfants. Hein. Moi je veux bien, hein. J'ai envie... Oui, non mais faire Baxit sur la Lune, j'adorerais. Mais bon, voilà, hein. C'est au niveau prod, c'est un peu compliqué. On va déjà essayer de finir la saison. Merci Caleb Larue pour ton Prime. Recevoir un ancien président, c'est une forme de consécration pour toi, pour vous? Oui, non, enfin, je suis très content qu'on ait reçu François Hollande. Je suis très content qu'on l'ait reçu dans ces conditions-là. Enfin, je trouve que ça avait du sens de recevoir François Hollande sur Baxit à l'occasion des 50 ans de Libé, en partenariat avec Libé, dans un amphi de la Sorbonne. Je trouve que tout ça est assez... ça se goupille bien, quoi. C'est cool. Je suis content. Si vous recevez Bruno Le Maire, ce sera le ministre ou l'artiste? Bonne question. Tu voudrais qui surtout comme homme politique? Question pour toi. Ah non, mais moi je m'en fous. Moi je veux recevoir des hommes politiques qui ont un lien avec l'actualité. Je veux recevoir les politiques qui font l'actu. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas une hiérarchie des hommes politiques ou des femmes politiques. Et plus tout le monde dans la hiérarchie, plus t'es content et tu marques des points. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Éditorialement, ça a du sens de recevoir des personnalités politiques au moment où elles font l'actu. Donc je suis très content qu'on ait reçu Charles de Courson avant l'examen de sa proposition de loi la semaine dernière. Je suis très content qu'on ait reçu Aurélien Pradier en mars au moment des débats sur la réforme des retraites. Je suis très content qu'on ait reçu Philippe Martinez le jour de la première manifestation de 2023 contre la réforme des retraites. Enfin tu vois, moi je suis content quand on reçoit le bon homme politique qui fait l'actu au moment où l'actu se passe. Voilà. Hollande, il faisait l'actu. Hollande, il faisait l'actu. Là, il y avait une actu particulière puisque c'était les 50 ans de Libé. Donc, encore une fois, c'est une émission événement. C'est une émission événement. Et François Hollande, on sait qu'il est proche de son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui devrait sortir du bois dans les semaines qui viennent. Donc, on a précédé l'actu. Mais il faudra qu'on reçoive Bernard Cazeneuve, tiens. Quand il aura lancé son parti politique. Cazeneuve peut-il soulever les foules? Eh bien ça, ce sera une excellente question à lui poser à Bernard Cazeneuve. C'était trop bien la musique hier, je vote pour plus d'interludes musicaux dans Baxit. Ok, c'est noté. C'est noté, on va garder l'idée. Cazeneuve est-il de gauche? Deuxième excellente question à poser à Cazeneuve. Qu'est-ce que la gauche? Pour vous? Comment vous l'articulez? Comment vous la voyez? Etc. Qui est Cazeneuve? Bernard Cazeneuve est un ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre de François Hollande, qui défend comme François Hollande la gauche non NUPES. Et il appelle de ses voeux à une renaissance d'un parti qu'il va probablement créer dans les semaines qui viennent, social-démocrate, pour proposer une alternative à Emmanuel Macron qui ne soit pas inféodé à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est pas excitant comme proposition. Eh ben, il faudra qu'on en parle à Bernard Cazeneuve, mais je pense que ça n'a pas vocation à être excitant comme proposition. Justement, Bernard Cazeneuve qui dépend de la crédibilité, il n'est pas sur l'excitation, tu vois. Encore que, peut-être que lui, il le pense différemment. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on l'interviewe, Bernard Cazeneuve. Il a plein de trucs à nous expliquer. Est-ce qu'on a le droit de reposter un message si on pense qu'il est pertinent et qu'il n'a pas été vu? Non, le spam est interdit. C'est quoi la crédibilité? C'est la capacité à proposer des solutions réalistes. C'est ça la crédibilité en politique. Le gros problème de Cazeneuve, c'est qu'il a accepté d'être Premier ministre les 6 derniers mois de Hollande alors qu'on savait qu'il ne ferait rien. Oui, mais ça c'est normal, les 6 derniers mois d'un quinquennat, de toutes les façons, tu fais pas grand-chose. Quand Jean lit un de mes messages, ça me donne l'impression d'être spécial. Je l'ai trouvé moins décontracté sur Baxit que chez Samuel Etienne, le François Hollande, c'est que moi. Enfin non, oui, mais enfin c'est normal. Il y a une différence entre être à côté de Samuel Etienne, chez Samuel Etienne, et être dans un amphi de la Sorbonne avec 400 personnes. Tu m'accorderas que voilà. Le contexte ne se prête pas à la même détente. Au bout de 3 heures, tu te décontractes. Bah, t'as vu qu'il s'est décontracté, Hollande, hein? Regarde, regarde.
Émission, merci. Je vous rappelle que Baxit n'est rendu possible.
Une petite hype là.
Ouais.
Non, mais c'est-à-dire
Petite,
que
petite. Légère.
Oui. Et
François Hollande.
Vous pouvez avoir une boutique. Si vous mettez rien devant la boutique, pourquoi les gens rentreraient?
Oui, il n'y a
Le
plus
problème.
d'idées. Il n'y a plus d'idées, c'est ça.
C'est le travail. Ça s'appelle le travail. C'est-à-dire qu'il faut bâtir. Des programmes, faut aller chercher des idées nouvelles, faut rencontrer les associations, les syndicats, les gens qui bougent.
Ça, c'est Hollande en fin d'émission.
Mais
pourquoi ce...
Maintenant, je vais vous montrer Hollande en début d'émission.
S'il n'était que...
J'ai l'impression que... On a plein de questions à vous poser, vous.
Sur ce point-là, il ne faudrait pas non plus ignorer que la génération des boomers, elle a aussi subi des crises, elle a aussi subi des épreuves, elle a aussi été... victime du chômage, d'une forme de paupérisation. Elle est...
Voilà, vous voyez, quand je dis que François Hollande c'est un diesel, Il arrive sur l'émission avec son costard en mode président de la République.
C'est les 50 ans de Libé, François Hollande. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Libé?
Oui, je me souviens, bien sûr.
C'était quand?
Parce que je suis plus vieux que les autres, donc je me souviens du journal lui-même. C'est-à-dire, il y a 50 ans, j'achetais Libé, qui n'était pas le Libé d'aujourd'hui, qui était un Libé beaucoup plus révolutionnaire.
Ouais.
À gauche, je ne sais pas, mais révolutionnaire, c'était ça l'idée, qui avait été fondée par la gauche prolétarienne.
C'était au Bourget?
C'était au Bourget, mais il s'en crée. Ce travail ne se fait pas.
Parce que ce travail n'est pas fait, parce que regardez ce qui se passe. Qui produit une idée là aujourd'hui? Prenons le cas d'aujourd'hui.
Ils ont passé la journée à le faire.
Non, je ne parle pas de ce qui s'est passé ici. Regardez.
Bref, voilà. Différence entre début et fin d'interview. Et moi, je suis très content. C'est ça aussi l'effet Baxit. Les politiques, ils arrivent sur Baxit au début, ils sont un peu comme ça. Et puis à la fin, ils sont en mode. Bon, les couilles. Non, mais c'était très très bien. Aussi pour ça. Est-ce qu'il a aimé Baxit? Écoute, j'en sais rien et je m'en fous un peu. Je lui ai pas demandé, il m'a dit merci, je l'ai remercié, moi c'est surtout moi qui l'ai remercié d'avoir accepté, et puis ciao bye. À quand Macron ou Route Bézieux? Alors Route Bézieux, ça pourrait être intéressant parce que là le MEDEF est en train de faire son université d'été ou son élection. Il y a une élection à la tête du MEDEF. Mais Route Bézieux sera plus président. Ce sera soit Dominique Carlac, soit Patrick Martin. Et le vote aura lieu le 6 juillet. C'est con parce que moi, ça m'intéresserait d'interviewer le ou la présidente du MEDEF après le scrutin. Bon, on verra ça l'année prochaine, mais ça m'intéresserait parce qu'il y a quand même des enjeux en ce moment sur la question justement du dialogue social qui m'intéresse. C'est vous qui avez financé l'émission ou Libé? C'était partagé entre Libé et nous. Je vois les tweets d'avance. Ouais, mais ça c'est normal ça. C'est normal. On s'en branle. Ce serait cool d'avoir Olivier Klein sur le logement. Absolument, le ministre du logement en ce moment, j'ai pas mal de questions à lui poser sur la crise du logement. J'aimerais bien le recevoir. Non mais si on commence à faire la liste des gens que j'aimerais bien recevoir, ça va aller loin. Hein. Il y a quand même pas mal de gens que ça m'intéresse de recevoir, compte tenu de l'actualité. Tu vois, élection à la tête du MEDEF, ça m'intéresse. Crise du logement, ça m'intéresse d'avoir le ministre. Bon, européenne, on a quand même déjà fait pas mal d'émissions dessus. Liste commune, NUPES, tout ça. Réforme des retraites, on a fait quand même pas mal d'interviews dessus. Le nouveau président de la FNSEA. Il y a un nouveau président de la FNSEA. Alors tu me diras, oui, sur la FNSEA. Ouais, sur la FNSEA. Mais il n'y a pas une loi de programmation agricole qui va être votée bientôt? Je me souviens plus. Attends, ça fait partie de la liste des 100 jours. Mais oui, non, mais t'as raison. Le patron de la FNSEA aussi, c'est intéressant. En ce moment, j'ai plein de questions à lui poser. Le futur new boss de la CFDT. Oui, alors ça pareil, hein, Sophie Binet de la CGT, ça m'intéresse de l'interviewer. La future boss de la CFDT aussi. La FNSEA, c'est quoi? C'est la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. C'est le principal syndicat de l'agriculture en France, qui est une organisation qui représente beaucoup d'exploitants agricoles. Et qui est contesté notamment à gauche et par une partie des écologistes parce que la FNSEA, il lui est reproché de faire la promotion d'un modèle d'agriculture très productiviste, en décalage avec ce que prônent des personnes qui proposent une alternative à un modèle agricole plus respectueux de l'environnement. Donc c'est intéressant. Retailleau pour la rentrée, ouais. Au fait, super ton interview de Bilal Hassani hier, vraiment. Oui, c'était chouette, Bilal Hassani. Je suis très très content que Bilal Hassani ait accepté de venir. Bilal Hassani reçoit énormément de propositions de médias qui veulent toujours lui parler de machin, des concerts qui ont été interdits, pas interdits, annulés, pour des raisons de sécurité après des menaces de l'extrême droite. Et je suis très heureux que Bilal Hassani ait accepté de venir sur Backseat. Je suis très heureux qu'il ait accepté de venir jouer sur Backseat aussi. C'était une très belle manière pour lui de répondre à ses attaques, de le faire en musique. Et il était très très stressé, Bilal, hier. J'ai essayé de le rassurer autant que possible, mais je comprends que ce soit très, très impressionnant de venir dans une émission qui parle de politique, etc., pour quelqu'un comme Bilal Hassani. Il n'a pas forcément envie de parler de ça. Il était très pertinent. Mais oui, oui. Non, non, il était vraiment chouette avec Salomé Sacquet. Le dialogue entre les deux était bien aussi. Salomé Sacquet, Bilal Hassani, je suis content. Hier, c'était assez ironique que Hollande donne des bons points à Gage sur le programme commun alors que Gage était l'une des figures des frondeurs. C'est pas forcément ironique, c'est que Hollande il est capable de, aussi de reconnaître que Gage dit des trucs pas débiles. Pas parce que Gage a été une des figures des frondeurs que Hollande déteste Gage et tout ce que dit Gage. Pourquoi Mélenchon a refusé? Parce que Mélenchon a pas envie de débattre avec François Hollande. Il en a parfaitement le droit, il a ses raisons. J'ai essayé de le convaincre, mais écoute, il a le droit de ne pas avoir envie. Hein. On fout. T'as bien choisi les deux journalistes de Libé. Ah bah ouais, Thomas Legrand et Alexandra, c'était chouette. Alexandra, directrice adjointe de la rédac, c'était cool. Et Thomas Legrand. Quand même, l'éditorialiste politique de Libération qui fait des chroniques politiques passionnantes. Puis en plus, Thomas Legrand, il fait l'émission Enquête de politique sur France Inter. Personnellement, je suis fan de cette émission. Je suis président de l'amicale des amateurs de Thomas Legrand, vice-président du fan club. Je suis secrétaire général des ultras de Thomas Legrand. Donc, non. Thomas Legrand qui passe son temps à cracher sur Jean-Luc. Ton pseudo, c'est avec JLM. C'est un peu la tristesse. Est-ce que t'as des pins à son effigie? À Thomas Legrand? Ouais, sûrement. Est-ce que tu comptes parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée hier? Plus tard, une autre fois. Tu es le créateur du Nershit Thomas Legrand. Oui, c'est ça, le Nershit Thomas Legrand, c'est moi. Le out of context Thomas Legrand. Il s'est passé quoi à l'Assemblée hier? La commission des affaires sociales a rejeté l'article 1 de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites à l'issue d'une séance particulièrement mouvementée, compte tenu des espoirs que plaçaient les oppositions dans cette proposition de loi. Donc on verra la suite des événements. Tu intervieweras Marisol Touraine un jour? Bah, le jour où elle aura une actu. Enfin, c'est pas méchant contre Touraine de dire qu'elle a, elle est plus ministre, elle est plus, enfin voilà, elle a plus d'actu nationale qui justifie une invitation sur Bexi. Tu vois, c'est pas contre elle. Hein. Interviewer quelqu'un, ce n'est pas lui accorder une importance hiérarchique en termes de valeur, d'appréciation, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, un peu relou cela aussi, qui pensent qu'interviewer quelqu'un, c'est l'encenser par nature. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Interviewer quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne fait l'actualité et estimer que des questions intéressantes peuvent lui être posées sur son actualité, sur ce qu'elle a à dire de l'actualité, etc. Marisol Touraine n'est plus une personnalité politique de premier plan. Elle est à la tête d'une association internationale sur l'accessibilité de la santé et le prix des médicaments. Absolument passionnant au demeurant, mais et voilà. Et ne pas les interviewer, c'est faire le jeu et les faire monter. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ne pas interviewer, c'est aussi encensé. C'est compliqué, hein. C'est un peu méta. Comment ça, tu veux pas inviter Michel Sapin? C'est vrai ça, Michel Sapin, c'est quoi son actu? Hollande, il est d'actualité, on répond pas. Non mais, ah oui, alors du coup, si t'es arrivé récemment, excuse-moi, on expliquait tout à l'heure que l'émission d'hier soir de Backseat, c'est une émission spéciale. En partenariat avec Libération, à l'occasion des 50 ans de Libération, qui est un journal historique de la gauche française qui a notamment accompagné la social-démocratie. Il nous a donc paru intéressant avec Libération, à l'occasion de cette émission spéciale, de faire un pas de côté par rapport à l'actualité, donc par rapport à ce que je viens de vous dire, pour inviter François Hollande et le faire parler notamment de la gauche. Mais c'était une émission spéciale. En plus, j'avais l'impression de vous l'avoir dit, ça, que c'était une émission spéciale Libé. En même temps, ça se voyait, non? On était dans un amphi et tout. Oui, tu l'as dit. Oui, non, mais je vous l'ai dit. Non, mais attends, je vous ai fait chier avec ça pendant des semaines en vous disant qu'il y a une émission spéciale avec Libé, une émission exceptionnelle, particulière, tout ça, tout ça. En plus, c'était même pas un jeudi, donc c'est vrai que c'était un spin-off de Backseat. Oui, t'as raison, Blind. Est-ce que l'offre spéciale de Libé avec Backseat te soutient aussi? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, c'est full Libé. De toute façon, on pourrait invoquer toutes les réponses possibles. Certains ne voulaient simplement pas le voir. On a quand même regardé l'émission. Ah, Backseat! Hollande, tu veux dire? Ah oui, non mais ça c'est classique, non mais ça c'est normal, c'est très habituel. Encore une fois, c'est complètement normal dans son rapport aux politiques et à la politique, il y a des gens qui, et c'est voilà, ça se comprend, hein, il y a des gens qui ne supportent pas d'entendre des gens qui n'ont pas les mêmes opinions qu'eux. C'est normal, ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça et tout. C'est totalement compréhensible et c'est pas grave. Donc c'est normal que ces gens-là critiquent les émissions qui ont le malheur d'inviter d'autres personnes que celles avec lesquelles ils sont d'accord. Ça a toujours existé, ça existera absolument toujours, et ça n'a absolument aucune importance. Ces gens-là ne sont pas le cœur de cible, ni le cœur de public de Backseat, et ne le seront jamais. Ils sont très minoritaires, mais font beaucoup de bruit, et c'est pas grave. Ça arrive, ça existe, c'est comme ça. Ça fait partie du flow habituel que tu as quand tu fais des émissions politiques, quelles qu'elles soient. Et ça, tous les journalistes sont très très habitués à ça. C'est... Et ça fait réagir, ce qu'est le but de Backseat. Alors par ailleurs, t'as aussi la théorie effectivement du comment ça s'appelle, de l'antagonisme puissant, ou je sais plus comment c'est, l'antagonisme, je sais plus quoi, qui dit que les personnes, les détracteurs sont une force de communication et que ça te permet de rapporter plus. Je sais plus qui avait théorisé ça, mais c'est l'idée de dire que quand tu veux, en communication, quand tu veux te faire connaître d'un large public, tu as autant intérêt à t'appuyer sur les personnes qui t'apprécient et qui du coup vont faire monter le, par leurs compliments, la connaissance de ce que tu fais. Mais tu as aussi intérêt à t'appuyer sur tes détracteurs qui par leur détraction, ça veut rien dire, qui par leur critique vont eux aussi participer non seulement à faire connaître ce que tu fais, mais vers même mieux. S'ils sont caricaturaux et qu'ils sont des repoussoirs, vont renvoyer vers toi des gens qui, par antagonisme, vont se mettre à t'apprécier. Antagonisme motivationnel. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas clair ce que je suis en train de dire. En gros, il faut cliver pour le succès. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'il y a une autre manière. Enfin, il y a encore une autre stratégie qui s'appelle Bad Buzz is Still Buzz, qui était le fameux truc appliqué par Nicolas Sarkozy en 2006, qui était « peu importe que l'on parle en mal de moi, l'important c'est qu'on parle de moi ». Donc ça, c'est la volonté de fracturer et de créer du clivage et du clash, y compris sur des bad buzz, le but étant d'occuper l'espace médiatique. Ça, c'était la stratégie Sarkozy qui marchait très très bien à l'époque. Occuper l'espace médiatique, y compris se faire porter par ses détracteurs. Moi, je parle pas de ça. Je parle encore d'un autre truc sur les personnes qui n'aiment pas ce que tu fais, vont pousser dans tes bras des personnes qui sont susceptibles de bien aimer ce que tu fais simplement parce qu'elles sont des repoussoirs. Parce qu'elles sont démagogiques, parce qu'elles sont caricaturales, parce qu'elles ne donnent pas envie de les rejoindre, etc. Donc ça va renvoyer vers toi des personnes susceptibles de t'apprécier. L'ennemi de mon ennemi devient mon ami. C'est un peu ça. En tout cas, les gens qui n'apprécient pas mon ennemi sont susceptibles de devenir mon ami. Donc, mon ennemi devient une forme d'allié indirect sans le vouloir. Parce qu'il renvoie vers moi les gens qu'il n'aime pas. Voilà, vous commencez à comprendre. Donc, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Que les gens qui détestent Backseat, en général, je suis assez reconnaissant qu'ils continuent à l'exprimer sur Twitter. Parce que du coup, ça renvoie vers Backseat plein de gens. Et c'est cool. Merci les rageux. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu la philosophie de, au lieu de dire laisser les rageux rager, c'est inciter les rageux à continuer de rager. Parce qu'en fait, ça vous bénéficie de ouf. Comment ça s'applique dans les faits réels? Comment on fait pour que des gens nous détestent à un point où ça nous fait de la pub? En fait, tu peux pas vraiment y faire grand chose. Tu as intérêt à croiser les doigts pour que les gens qui te détestent soient tellement débiles soit tellement caricaturaux, tellement con, qu'en fait ça te rend appréciable. Je viens de YouTube, donc je connais pas tout le lore. C'est quoi le but de Backseat à l'origine? Vulgariser la politique? Oui, en partie. Le Backseat, c'est une émission d'actualité politique qui s'adresse à un public éloigné de la politique. Donc à un public qui ne regarde pas habituellement des émissions d'actualité politique, qui regarde pas la télé, qui écoute pas la radio, qui spontanément n'irait pas consommer des contenus politiques sur Internet. Et Backseat, c'est une émission qui essaye de proposer un contenu cool pour ces gens-là, pour leur dire, hey, regarde, la politique, c'est sympa. Et on, en fait, on peut la suivre et c'est intéressant et on peut se faire une opinion et c'est cool. Et on peut en débattre, etc. Voilà, c'est ça le projet Backseat. Ça me fait penser à Squeezie qui avait bénéficié d'une vague de sympathie après son passage chez Ardisson. Ouais, c'est un bon exemple, voilà. Quelqu'un qui est méprisé par Ardisson, spontanément, ça me donne envie de l'apprécier. Tellement Ardisson est un symbole de... Voilà. Oui, c'est un bon exemple, voilà. C'est un assez bon exemple. C'est comme quand Sonia Mabrouk me rentre dedans sur le plateau de Léa Salamé. Bon, bah, y a plein de gens qui m'ont trouvé très sympathique à ce moment-là parce que juste Sonia Mabrouk, quoi. Bon, bah voilà. C'est pareil. L'inverse est vrai aussi. Alors l'inverse peut être vrai aussi, ça c'est vrai. Alors c'est effectivement le drame du fanatisme. Effectivement, tu as raison. Autant les gens qui te détestent peuvent renvoyer vers toi des gens tellement ils sont débiles. Des gens qui t'apprécient et qui sont débiles peuvent aussi renvoyer vers tes adversaires ou vers les gens qui t'aiment pas d'autres personnes. Ça c'est un peu le drame que t'as quand t'as des fans qui en fait deviennent des repoussoirs. C'est un peu le, bah c'est un peu les, tu vois les, c'est le dilemme des hooligans avec le foot. Les hooligans avec le foot, bah en fait ils font fuir les gens. Les gens ont plus envie d'aller au stade pour regarder des matchs de foot parce que juste les hooligans, ils donnent une très mauvaise image des gens qui vont au stade. C'est ce genre-là. Et ça, tu peux le retrouver, effectivement, dans d'autres sphères du truc. On parlait de... les trolls sur Internet, tu vois, c'est un exemple. Les trolls sur Internet, les trolls macronistes, j'ai pas l'impression qu'ils réussissent à convaincre grand monde d'apprécier Emmanuel Macron. Plutôt l'impression qu'ils fabriquent des opposants à tour de bras. Les fans de la France Insoumise aussi sur Twitter, ils sont connus pour être des repoussoirs à électeurs potentiels en faveur de la France Insoumise. Par leur radicalité, par leur bêtise, par leur cyberharcèlement aussi. Les vagues de cyberharcèlement contre les membres du gouvernement, contre les gens avec qui ils ne sont pas d'accord, etc., ne sont pas des panneaux publicitaires en faveur du vote pour les opposants à Emmanuel Macron. Tous les extrêmes en général... C'est un peu la limite de l'extrémisme au sens de les personnes qui sont trop à fond, en général, elles deviennent des repoussoirs, quoi. Les militants macronistes sont farouches et hargneux. Ouais, justement, c'est ce que je te disais. Justement, les militants macronistes sur Twitter, je sais pas exactement à quoi ils jouent, mais ils sont à peu près aussi efficaces à détourner des électeurs potentiels d'Emmanuel Macron que le sont les trolls mélenchonistes de détourner des électeurs potentiels de Mélenchon, quoi. Donc oui, vous avez raison, c'est à double tranchant. Hein. Ça, c'est... Ouais. Regardez la K-Corp, très bon exemple, La K-Corp, club e-sport très cool, que t'as envie d'apprécier, la story est belle, Kameto, c'est un mec génial, c'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs, etc. Sauf que les ultras de la K-Corp, sur Twitter, sur Internet, dans les chats Twitch, etc., c'est juste... un repoussoir à K-Corp terrible. Hein. Les ultras de la K-Corp, c'est quand même... C'est vraiment des gens qui te donnent pas du tout envie de soutenir la K-Corp, voire même de soutenir l'équipe d'en face, parce que putain... Dis pas ça, tes conseils vont t'entendre. Non mais voilà, fin, tu vois... c'est te dire... Alors que 90% des supporters cassés sont adorables. Oui, c'est pour ça que je parle pas des supporters, je parle des ultras. Attention, je parle bien des ultras de la K-Corp. Oh, les supporters de la K-Corp, moi j'en connais plein, c'est des gens adorables, hein. C'est des gens trop cool, qui kiffent l'e-sport, qui kiffent la K-Corp, qui kiffent Kamel, qui kiffent les joueurs, enfin, let's go, enfin, juste des e-sport enthousiastes, moi je connais que ça, hein. C'est quoi la K-Corp? La K-Corp, c'est l'équipe e-sport de Kameto. C'est l'équipe e-sport qui a été créée par le joueur et streamer français Kameto, qui est un excellent streamer, qui a fait des choses formidables, etc. Et il a notamment créé la K-Corp, donc, qui est une équipe e-sport. C'est même plusieurs équipes dans plusieurs jeux, hein, sur League of Legends, sur Valorant, sur Trackmania. Et voilà. La fanbase Apple il y a 10 ans. Ouais, la fanbase Apple il y a 10 ans, oui, c'est ça. Il te donnait vraiment pas envie d'acheter un iPhone. Hein. Oh putain, les Apple Zoos là. Oh là là, fermez vos gueules. Je suis sûr que je fais partie des gens qui ont acheté des Android pendant 10 ans. Juste parce que... Oh, mon Dieu, j'ai pas envie de ressembler à ça. Ils sont horribles. Les fans de manga. Ah, les PP manga. Ouais, les PP manga, ouais, ça, eux aussi. Hein. Pas un très très bon panneau publicitaire en faveur des mangas. Hein. Non mais c'est vrai, les fans d'Elon Musk, pareil, les crypto bros là, les fans d'Elon Musk. Oh putain. Oh, quelle horreur. Donc voilà, donc les PP foot aussi. Ah, les PP Ligue des Champions, pareil hein. Donc bref, voilà, quand les ultra fans deviennent des repoussoirs, faut faire gaffe. Bah, c'est comme les fans de Kaamelott, tu vois, voilà. C'est con parce que Kaamelott, moi j'aime beaucoup Kaamelott, c'est cool Kaamelott, c'est un beau projet, c'est bien écrit, j'aime bien, je trouve qu'Alexandre Astier est très talentueux, etc. Bon, bah les fans de Kaamelott, à un moment, sont peut-être allés un peu loin. Au point de plus trop donner envie de regarder Kaamelott, et c'est dommage parce que voilà. Non mais arrêtez. Non mais voilà, mais moi je suis le premier à faire des jeux de mots sur voilà, c'est pas faux, Sloubien, à roulette, etc., révolte. J'adore, évidemment, Kaamelott est fait partie de mon imaginaire, que j'aime beaucoup, que ça m'amuse beaucoup, que j'aime bien, que je suis le premier à ressortir du Kaamelott dans les conversations, etc. On en a gros cuillère et tout, et c'est bon, bref. Mais force est de constater que voilà, les ultra Kaamelott glupent. En vrai, d'un point de vue général, ne soyez pas des fans. Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, non, mais c'est pas ce que je dis. Vous avez le droit d'être fan d'un truc, etc. Je dis juste que le fanatisme peut devenir un repoussoir pour d'éventuelles personnes qui seraient tentées de découvrir et d'apprécier ce que vous appréciez. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie que d'autres personnes les rejoignent. Hein. Regarde, mais ça, c'est le paradoxe de... Comment on appelle ça? Le paradoxe des surfeurs. Il y a des surfeurs qui ont une petite plage un peu privée, un peu discrète, qui n'y a pas grand monde qui la connaît, sur laquelle on peut surfer tranquille parce qu'il n'y a pas trop de monde. Ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait d'autres surfeurs qui viennent sur cette plage. Donc ils font tout leur possible pour que les gens restent éloignés de cette plage, etc. Donc voilà. Donc il y a des gens qui, effectivement, font tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'il y ait le moins de monde possible qui rejoignent leurs opinions en politique. Moins il y aura d'électeurs en faveur du candidat pour lequel je vote, mieux ce sera. C'est de l'élitisme. Ça peut être une forme d'élitisme, oui. Bon, l'élitisme, ça veut dire que tu te considères être une forme d'élite, mais ça peut être pas forcément une hiérarchie, ça peut être juste... la pureté militante. La pureté militante, il faut prouver tous les jours que tu es plus à gauche que l'autre mec de gauche qui est à côté de toi. Parce que quelque part, il n'est pas assez à gauche. Ça, c'est tous les jours. Hein. Regardez les débats sur Twitter, c'est tous les jours. Hein. Vous mettez deux anarchistes dans une pièce, ils vont avoir un débat pour savoir lequel des deux est vraiment le plus anarchiste. Hein. C'est moi le plus anard, vous voyez ? Regardez Malek délégué. Malek délégué, on peut avoir un débat, hein, savoir si est-ce qu'il est plus à gauche que la gauche. Parce que moi, je suis vraiment de gauche, toi, t'es pas vraiment de gauche. Bon, ben voilà. Tu mets deux trotskistes dans une pièce, ils font une scission. Ouais, mais ça, c'est classique. Non, mais cette blague, elle est drôle depuis les années 60. C'est ça qui est marrant avec les trotskistes, c'est qu'ils ont pas changé en 60 ans. Donc du coup, voilà, cette blague, elle est drôle depuis les années 60. Mais elle continuera à être drôle. Ben voilà. Bon, donc, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui veulent gagner des élections, il y a des gens qui veulent et qui veulent absolument les perdre, mais de la manière avec le plus de panache possible. Tu penses quoi de la phrase ni de droite ni de gauche égale de droite ? Ça ressemble à du gatekeeping, quoi. Ça ressemble à du gatekeeping. Ceci étant, quand tu regardes l'histoire contemporaine en France, force est de constater qu'effectivement, les gens qui se sont prétendus du centre ont plus naturellement fait des alliances avec la droite qu'avec la gauche. À l'exception du PRG, qu'on embrasse. On embrasse toujours le PRG, c'est des copains. Mais le ni de droite ni de gauche, ou les E de droite et de gauche, ressemblent souvent à s'y méprendre à du centre droit, à de la droite modérée si tu veux. Une explication sur ce qu'est le gatekeeping. Bah, le gatekeeping, c'est ce que je vous expliquais avant. Le gatekeeping, c'est un comportement militant qui consiste à garder la porte fermée, à fermer la porte et à... C'est un peu comme un garde devant une porte avec une lance qui essaye de repousser les gens qui sont tentés d'entrer. Donc le gatekeeping, c'est un comportement qui consiste à exclure en permanence plutôt qu'à garder les bras ouverts en disant bah, « venez, rejoignez-nous ». C'est ça le gatekeeping. Gardien du temple, ouais c'est ça. C'est oui, les gardiens de la foi quoi. Bah tu vois, c'est un peu les inquisiteurs, voilà. Les inquisiteurs qui parcouraient les villages au Moyen-Âge pour vérifier si les gens étaient bien chrétiens comme il faut. Et ceux qui avaient le malheur de ne pas l'être exactement parfaitement bien et qui, voilà, bah ils les cramaient. Pour maintenir la terreur, etc. Bon bah voilà, bah, c'est ça, le gatekeeping. Dans les cercles militants, il y a beaucoup de gatekeeping, de gens qui se comportent comme ça de manière à exclure au maximum. J'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. À conserver la pureté de l'idéologie ou de la doctrine. C'est une forme de d'orthodoxie. C'est une forme d'orthodoxie, ouais. Qui sera le plus proche des saintes écritures? C'est une forme de sectarisme aussi, si vous voulez, ouais. Ça peut être une forme d'élitisme idéologique aussi, si tu veux. Mais la notion d'élitisme, non, je sais pas si... Ouais. Parce que l'idée d'élite, c'est une idée où tu te sens supérieur. Oh, tu me diras oui. Oui. Oui, oui. Tu te sens souvent supérieur. C'est normal, après, la politique fabrique ça. C'est normal de se sentir un peu supérieur aux autres parce que t'as l'impression que tes idées sont meilleures que celles des autres. C'est pas grave en soi, en vrai, en politique, c'est normal de considérer avoir plutôt raison de penser ce qu'on pense. Pas en vouloir aux gens, ça. Moi, je considère que les gens qui aiment les Pimps méritent la mort. Bon, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se sent un peu supérieur à ces gens-là ? Sans doute, sans doute. Est-ce que je considère dans un relativisme coupable que toutes les opinions se valent, que vous avez le droit d'aimer les Pimps ou de ne pas aimer les Pimps ? Peut-on faire république avec les gens qui aiment les Pimps ? C'est pas facile, hein ? Parfois, faut se forcer. Faut se dire que par-delà nos différences, ce qui compte, c'est ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise. Et que ce qui nous rassemble, eh ben c'est l'opposition à l'extrême droite. Et puis voilà. Chaque fois que j'arrive en live, vous comptez les Pimps, c'est quoi ce lobby ? C'est dégueu. Voilà, voilà. Vous voyez, regardez. Il y a Marie Kigai qui est d'accord avec moi. Les Pimps, c'est dégueu. Bon. Faut-il être tolérant avec les gens qui aiment, pas les, qui aiment bien les Pimps ? Moi, je pense que oui. Parce que je suis contre le gatekeeping des pro-Pimps, des anti-Pimps, pardon. Je veux qu'on ait les bras ouverts et qu'on invite les gens à nous rejoindre pour éventuellement faire évoluer leur opinion à ce qu'elle, de manière à ce qu'elles rejoignent la nôtre. Voilà. Bon, et ben c'est merci beaucoup WM Commis pour le sub offert à Marie. Le gatekeepings, oui voilà c'est ça. Sinon, que pensez-vous de la gauche intersectionnelle ? Bah, ils sont pas vraiment de gauche, c'est un peu des sauces d'emmou, donc c'est un peu des gens de droite. J'en sais rien. J'en sais rien, pardon, excuse-moi, j'étais en mode pilote automatique, gatekeeping. non, attends, sinon tu fais... Attends, la réponse du PCF des années 60... L'intersectionnalité... n'est rien d'autre attends qu'un paravent qui détourne les masses laborieuses de la lutte des classes et de la perspective révolutionnaire. Voilà. Pendant qu'on parle des droits LGBTQI+, on parle pas de la lutte des classes. C'est donc bien la preuve que c'est un truc de droite. C'est l'idiot utile du capitalisme. C'est comme les droits des femmes. Blague à part, je vous invite à regarder le film qui s'appelle We Want Sex, qui raconte l'histoire des combats des ouvrières britanniques dans les années 70, 80, ouais, 70-80, en faveur de l'égalité salariale. Vous verrez comment elles sont, elles se battent contre le gouvernement conservateur, qui ne veut pas augmenter les salaires, par principe, et contre les syndicats de gauche, qui veulent pas augmenter les salaires des femmes parce que l'égalité entre les sexes, c'est pas prioritaire. La vraie priorité, c'est la révolution. Et c'est un super bon film qui, justement pour montrer ça, pour montrer la difficulté qu'ont eu les féministes, les militants pour les droits homosexuels aussi dans les années 80-90, pendant les années SIDA, etc., à mobiliser, y compris la gauche, parce qu'il y avait un paquet de gens qui étaient en mode oh, pas prioritaire, votre truc. Les antiracistes aussi, hein. La question du racisme, ouais, bon, on va pas se diviser là-dessus. Ce qui compte, c'est la révolution et la lutte des classes. C'est, voilà. Donc il y a toute une histoire aussi de la gauche sur la question de ses priorités et tout. Donc blague à part évidemment sur la gauche intersectionnelle est justement au cœur de ça, de dire qu'il faut pas écraser certaines luttes par d'autres luttes en disant qu'il y a une forme de priorité entre les luttes et tout. Le film c'est We Want Sex Equality, Jean. Je croyais que c'était juste We Want Sex, justement pour faire le jeu de mots. Bon bah c'est We Want Sex Equality, le titre du film que je vous invite à regarder, qui est un chouette film. Il y a aussi une belle pièce de théâtre en ce moment sur ce thème, Les Dames aux mains jaunes. Ok. Je savais pas. La convergence entre les Chamonix et les Pimps, on en parle. Fais ce que tu veux. Tu penses quoi de la sortie de Ruffin ce matin sur les travailleurs saisonniers qui met le Twitter de gauche en émoi ? J'en sais rien. Moi, ce matin, je dormais comme un connard. Ce matin, je suis désolé, j'ai pas écouté Ruffin. Ce matin, je ronflais. En plus, il y a Usul qui a dormi à la maison. Et le petit chat, il a eu peur d'Usul, donc elle est pas sortie de la cuisine de toute la nuit. Elle a dit « Oh non ! Oh non, il a ramené tonton Usul à la maison ! Oh non !» Gros after en plus. Non, en plus, on n'a pas fait un énorme after, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ça, un autre humain ? Mais oui, voilà, c'est ça. Comme mon chat, il a peur des humains. Déjà, quand moi, je suis à la maison, elle est pas bien, elle a peur. Mais alors quand il y a un deuxième humain dans la maison, en plus je suis sûr qu'elle nous a entendu débattre de politique, elle s'est dit « Oh non, relou. Oh non. Oh non. Oh non, il en a trouvé un autre comme lui. Oh non, trop relou. Elle a réussi à ramener à la maison un autre mec qui parle de politique toute la journée comme lui. Et du coup voilà, on a, je sais pas, je pense qu'on a philosophé. Ah oui, bien si, on a regardé l'épisode de Blast. On a regardé le portrait d'Alain Krivine. Et du coup à 3h du matin avec Usul, on a eu un débat sur... on a eu un débat sur les trotskistes. Et avant ça, on a eu un débat sur la notion de néolibéralisme est-elle applicable au macronisme ou pas. On a refait le match après Thomas Legrand. Voilà, le petit chat pendant ce temps-là était là. Oh, quel enfer. Ils sont horribles, ces mecs. L'odeur de la soirée. Ah ouais, ouais. Je suis jaloux de vos soirées. Ah bah la soirée où ça philosophe sur les trotskistes. Ah, c'est pas demain la veille qu'on va ramener des meufs à la maison avec ce genre de discussion. Bon. Je suis pas jaloux. Non, ça donne pas très envie, je te jure. Trotsky, il arrivait à pécho. Ah bah Trotsky, il a quand même été l'amant de Frida Kahlo. Voilà. Trotsky, quand même. Les after backseat, j'avoue, c'est pas ouf pour draguer. Oh bah après ça dépend comment tu ondules, comment tu parles de la social-démocratie, j'en sais rien. je viens de m'abonner sur KissKissBankBank, il y a un délai pour voir le lien de la VOD de l'émission d'hier. Bonne question, je ne sais pas. Pemf, t'es toujours dans le chat ? Merci pour ton don à KissKissBankBank, merci pour ton don, merci pour ton soutien. Non, je crois pas. Bah, normalement, non, tu y as accès. Regarde la page KissKissBankBank. Regarde. Je sais pas. Regarde un peu. Les publications. Les nems de backseat, rien de tel pour pécho. Faut prendre des douches, déjà, le chat, ça aide à pécho. Ah oui ! Ah non, Marie fait effectivement un point intéressant qu'on oublie souvent. Prenez des douches. Les mecs. Levez-vous les dents. Des quoi ? Mais si, tu sais, on en a déjà parlé. C'est le, l'espèce de petite pièce là, d'un mètre carré qu'on a dans les appartements. Au début, je ne savais pas à quoi ça servait, mais c'est ça. C'est une espèce de pièce fermée avec des trucs machin. Et il y a de l'eau qui coule. Et en fait, ça sert à ça. Tu fais couler de l'eau chaude sur ton corps. Après, tu frottes avec du savon. Après, tu rinces avec de l'eau. Et après, tu te sèches avec une serviette. Et c'est ça, en fait, qui... Ouais, si. On en a déjà parlé, ça, les gars. La prison à type rebou. Oui, c'est ça. La prison à type rebou. Voilà. Videz vos tiroirs à pisse et prenez des douches. Et il paraît aussi... La légende raconte qu'il faut changer de caleçon aussi. Tous les jours. Ouais, t'abuses. Ah non, mais faut souffrir pour pécho, les gars. Hein. Faut pas croire toutes les légendes qu'on nous raconte. Ouais, je pense qu'on nous raconte un peu n'importe quoi. Hein. L'odeur du stream. Il est un peu parti en couille, ce stream. Hein. Excusez-nous, pardon. Au début, on parlait de backseat à la Sorbonne. Après, on a parlé de François Hollande et de la social-démocratie. Après, on a parlé du gatekeeping et de la théorie de l'antagonisme, je sais plus quoi, en communication. Et maintenant, on parle de comment pécho. Je suis désolé. Hein. Attends, il est 18h50, je suis fatigué, moi. J'ai un peu le cerveau en vrac. Demain, je suis dans l'Hebdo Étienne avec Samuel Étienne. C'est la dernière émission de l'année, de la saison. Pour Samuel Etienne, pour l'Hebdo Etienne en tout cas, il m'a fait la gentillesse de m'inviter, donc c'est cool, donc j'y vais. Est-ce que tu connais les thèmes ? On est en train d'en discuter avec les autres invités pour savoir de quoi on va parler demain, donc vous verrez bien. C'est à quelle heure ? C'est à 20h sur la chaîne de Samuel Etienne. Vous allez parler du Super Culture Fest de Manon Bril ? Peut-être. C'est vrai qu'il était super ce Culture Fest. Il reste combien d'euros pour financer Backseat ? Il faut que je fasse un point avec mon coproducteur, mais je crois qu'il nous manque encore 30 000 euros pour finir le financement de la saison 1. Et il nous reste 5 émissions. Je crois qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Ouais, c'est peu ou prou 30 000 euros pour finir la saison. J'ai dit quoi ? La saison 2. Pardon, j'ai dit saison 1 encore, pardon. Il nous manque, ouais, 30 000 euros d'ici à la fin du mois de juin. Donc, j'ai confiance pour la dernière ligne droite. C'est jouable. Bah écoute, j'espère vous convaincre par la qualité de ces émissions. J'espère vous convaincre que ça vaut le coup de les soutenir. Est-ce que tu pars en vacances ? Je sais pas encore. Il faut que je m'organise mon été là. Oui, je vais partir en vacances comme tous les ans. Je vais essayer. Regardez le dernier tweet de Vincent. Parce que hier sur le plateau de Backseat, je me suis trompé, j'ai dit les éditions Fayot au lieu des éditions Payot. Et du coup, il a tweeté pourquoi Jean Massier avait envie de dire les éditions Fayot au lieu de Payot, une théorie. Vincent d'Internet apprendre à pardonner, viré du plateau de Backseat par Jean Massier, il témoigne. Arrête Vincent, j'ai déjà dit j'étais désolé. Mais j'ai déjà dit des yes ou des it, des i. Dit. Ah, vous écrivez beaucoup dit dans le chat. Ah merde, j'ai écrit deux fois le mot déjà. J'ai déjà dit que j'étais désolé. Est-ce que ça en dit pas assez long sur mon état de fatigue, sur la nécessité impérieuse de dormir, sur... venez, on fait un raid chez Hospolitik. Il y a Hospolitik qui est en train de streamer. Allez. Fin de l'émission. Fin du stream. Merci d'avoir été là. En vrai, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé Backseat hier soir. J'étais très heureux de vous proposer ce stream en partenariat, cette émission Backseat en partenariat avec Libération. C'était très cool. Merci au public qui était sur place. Merci la Sorbonne, vous étiez fous. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre soutien à Backseat. On a encore besoin de vos dons pour continuer cette émission. Il manque encore 30 000 euros pour finir la saison. J'ai confiance en vous du fond du cœur. Merci. Demain, chez Samuel Etienne à 20h. Et ce week-end, peut-être du Diablo 2, du Diablo 4. Diablo 4 peinard. On fait ça. Allez, des bisous. Profitez bien avec Host. À très bientôt. Ciao.
On va faire ça, je pense, hein. C'est pas mal. C'est très important, le raid Ego Trip.